Bonjour. Bonjour. Vous êtes bien avec Patrice Perrin, l'amoureux des lettres, sur Radio B 90 FM, la radio des bonnes ondes, pour son émission au Café littéraire. Et comme c'est annoncé, je vais vous parler de Jamy Gourmaud. Voilà, avec son roman qui s'appelle Les ailes de la forêt, qui est édité par Albin Michel. Le deuxième, un grand roman d'aventure au cœur de la nature. Le deuxième livre, ça s'appelle La mansuétude des orques. Les orques sont des baleines, voilà. Des orques est immense. C'est de Corinne Stanciu-Lacroix et ça vient d'être édité par Le Rouergue Noir. C'est un policier, mais c'est plus que ça. C'est pour ça que je voulais vous en parler. Le troisième livre s'intitule Cap sur la confiance. C'est de la grande Maude Fontenoy. Vous avez déjà parlé d'elle avec le trésor des océans. Maude Fontenoy, qui est vraiment quelqu'un d'unique. Et c'est édité par Larousse Jeunesse. Ensuite, il y a Max Frisch, qui est une redécouverte en français. Réponse, le titre Réponse du silence, qui vient de paraître chez Gallimard, une histoire de montagne. Et puis donc, il y aura une petite pause musicale. Et puis j'enchaîne avec Ghost Story. Voilà un titre anglais, Ghost Story. C'est de Siri Hudstwedt. C'est paru chez Gallimard dans une superbe collection hors fiction qui était la compagne de Paul Auster. Voilà. Et puis en septième position, ou en sixième position, oui, pour fêter, il s'agit de La vie ardente, ça s'appelle Les amours de Georges. Paru chez Gallimard, c'est de Stéphane Guégan. Donc c'est une façon pour nous de célébrer la bonne fée de la République, George Sand, qui est morte il y a 150 ans. Voilà. Et donc beaucoup de choses sont faites à l'égard de George Sand, qui habite toujours donc à Nohant, qu'on imagine toujours à Nohant. Et puis donc il y aura en septième position Les Invisibles de Thierry Moiraud, donc vous en avez entendu parler aux éditions Tix, mais je voulais vous en parler aussi. Et puis il y aura un neuvième, un neuvième, enfin un huitième livre, L'Église au village. Un roman historique, grand roman historique de Jean-Marie Le Gall, publié par Le Cerf. Et puis une neuvième position, un livre surprenant aussi, Cueillette au pluriel, Cueillette et Culture, édité par le Lys Bleu. C'est de la grande poétesse Marie Prat, qui écrit aussi sous le nom de Marie-Éléonore Desproges. Elle avait fait un recueil de poèmes, La Survivante, que je vous avais présenté, et elle m'a fait parvenir son nouveau livre, Cueillette, où vous verrez une cueillette extraordinaire, et Culture de Lys Bleu, et ça, je vous en parlerai en dernier, mais très très bien. Alors, je commence par le premier, Les ailes de la forêt. C'est de Jamy Gourmaud, édité par Albin Michel. Je remercie d'ailleurs le diffuseur Gilles Paris, parce que j'ai pu avoir ce roman édité par Albin Michel. Et je peux vous en parler avec un grand plaisir. Un battement d'aile peut changer un destin. Un battement d'aile, parce que on va parler aussi, vous allez voir. C'est le cas avec ce roman, Les ailes de la forêt de Jamy Gourmaud, donc chez Albin Michel. Et ce roman nous plonge à Saint-Laurent-du-Maroni. Voilà, nous sommes en 1924, donc il y a déjà quelque temps, mais on a bien l'impression que c'est aujourd'hui que se déroule ce roman. Avec Émile Le Guillou, son personnage central, qui, lorsqu'il s'enfonce dans la forêt guyanaise, sur cette terre qu'il a vue grandir, il retrouve la saveur de son enfance, les parfums et la moiteur de l'air. S'il est revenu, c'est pour trouver une espèce rare, car il est chasseur de papillons, voilà, les ailes des papillons, et aventurier malgré lui. Il veut profiter de l'engouement pour les lépidoptères, dont sont les papillons, et sauver sa boutique parisienne où l'attend son épouse Louise et la mère de son jeune fils Léon. Voilà. Alors, sur le bateau qui le ramenait en Guyane, il fait la connaissance de François, un soi-disant marin qui a fait le tour du monde, mais un personnage ambigu comme on peut le voir par la suite de ce roman. Pourtant, ce François a sauvé Florine qui était attaquée. Florine, une jeune femme du pays, une jeune femme insaisissable qui va aider Émile, et même au fil de cette aventure, au cœur de la nature, devenir pour Émile plus que cela. Car il a besoin d'aide pour trouver, pour arriver à saisir ce papillon étrange. Alors, comme nous sommes à Saint-Laurent-du-Maroni, il y a la caserne des Bagnards, voilà, qui sont toujours là. Alors il va s'entendre avec le directeur de la prison pour avoir 4 bons bagnards à l'affût de trésors. Ce sont des trafiquants prêts à tuer, et donc il va réussir à faire en sorte qu'il soit à l'affût de ces papillons. Et quand apparaît tel un miracle, le morpho, voilà, ginandromorphe, un spécimen rarissime aux ailes d'un bleu aveuglant. On le voit d'ailleurs sur la couverture de ce roman, Les ailes de la forêt de Jamy Gourmaud. En couverture, vous allez voir, par Michel, on voit le visage de Jamy Gourmaud, mais il y a aussi les ailes bleues d'un papillon extraordinaire qui émerge de cette forêt. Un ciel, spécimen rarissime aux ailes d'un bleu aveuglant. Sa quête, alors, pour Émile, se transforme en une traque périlleuse. C'est presque un roman policier, parce que la convoitise va embraser la jungle, mais aussi les salons parisiens. Et c'est ce que fait très bien Jamy Gourmaud, c'est de nous transporter aussi à Paris, parce que pour éviter un piège dangereux, donc, Émile aura besoin de l'aide des surréalistes. Voilà, on retrouve les surréalistes à Paris, avec en tête André Breton, Paul Éluard, Philippe Soupeau, Jean Cocteau, Man Ray, oui, Kiki de Montparnasse, Marie Korobieff, et même que j'ai connu, le grand photographe Brassailles, qui va l'aider providentiellement à échapper à cette traque périlleuse. Alors on visite aussi l'expo au Petit Palais, le jardin des plantes où se passent des choses. On fait la reconnaissance de Joséphine Baker. Et puis il y a une espèce totalement inédite que Émile va baptiser le Morphoprasino. Voilà, Morphoprasino. Oui, pour moi, Les ailes de la forêt de Jémy Gourmaud est un très grand roman où l'on va de l'Amazonie vénéneuse au Paris des années folles. Jamy est formidable conteur, s'initie un grand roman d'aventure qui nous plonge au cœur des mystères de la nature et des passions insensées des hommes. Voilà pour le premier roman que je voulais vous présenter. Le deuxième est aussi quelque chose de remarquable. Ça s'appelle « La mansuétude des orques est immense ». C'est de Corinne Stanciu-Lacroix et ça vient d'être publié par le Rouergue Noir, que je remercie pour ce grand livre. Sauvagement belle, illuminée par le ciel et fouettée par les vents, Dartmoor, nous sommes à Dartmoor, là où se déroule ce grand roman, dans une superbe édition avec une écriture bleutée comme la couverture de ce roman. Donc Dartmoor se trouve au sud-ouest de l'Angleterre. Donc nous sommes en Angleterre. Une lande montagneuse qui exhale un parfum de bout du monde. C'est là que s'installe un personnage, Colin, avec son fils Paul et son nouvel amour, Pierce. Leurs plus proches voisins sont un couple d'éleveurs. Il y a Joy qui joue un grand rôle et puis Andy, son mari. Tout autour déambulent les troupeaux de bovins musculeux, de vaches formidables, des Welsh Black, auxquels Colin découvre une douceur de géant. Alors, ce livre qui est un roman noir, il y a donc un crime. Une vache, une première vache, est découverte assassinée dans son étable, alors qu'elle allait mettre bas un veau, voilà. Une psychose s'empare du pays avec de grandes questions, au moins deux. Quels barbares peuvent bien s'en prendre aux animaux paisibles qui peuplent la campagne anglaise ? Et puis, deuxième question, les humains qui vivent avec eux sont-ils menacés? Et c'est Freya Di Maio, le lieutenant de police, qui est chargée chasseuse de graffitis à 16 heures, car on découvre aussi des graffitis, mène l'enquête. Et s'il fallait, pour comprendre cette histoire inquiétante et cruelle, s'intéresser à l'obsession de certains habitants pour les mammifères marins, parce que les orques sont des grosses baleines, des mammifères marins. Et on les comprend quand on sait que, dans une crique protégée des alizés, lui servant d'alcôve, une géante vient de mettre au monde son bébé, qui mesure plus de 4 mètres de long et pèse 700 kilos. Et 300 baleineaux naissent en tout et pour tout chaque année dans le monde. Je ne sais pas si vous le saviez, ça. Alors, chaque naissance est toujours un petit miracle. Mais un baleineau qui vient au monde est un miracle parmi les miracles de la nature. ce que découvrent les deux nouveaux amis, Paul, je vous ai déjà parlé de Paul, mais il y a Paul et Harry, qui vont devenir de grands amis et qui traquent ces animaux géants, et puis qui aiment lire, et qui vont découvrir la lecture de Moby Dick, car lire permet d'accéder à l'univers le plus riche et le plus secret qui existe, celui de la pensée. Alors on va aussi à l'île de la Possession, qui est colonisée dans les mers australes, colonisée par les manchots royaux. Pardon. Ce sont eux qui attirent les orques. Un monde de la nature que l'on observe avec acuité. Dans ce roman, en plus de l'enquête policière, pour découvrir toutes les relations nombreuses tissées avec les autres personnages de ce roman haletant. Oui, Corinne Stanciu-Lacroix promène son lecteur dans des paysages sublimes et dans une affaire criminelle qui va donner du fil à retordre à Freya Di Maio. Mais elle va y arriver, voilà, je ne vous raconte pas la fin. Cette autrice, Corinne Stanciu-Lacroix, a quitté une première vie en France, où elle œuvrait comme chirurgien-dentiste. Et maintenant, elle est en Grande-Bretagne et elle choisit la passion de l'écriture. Celui-ci, donc, ce livre et la mansuétude des orques est immense et son premier roman étonnant. Alors merci au Rouergue et à Nathalie Desmoulins qui a su la découvrir et l'éditer. Et à Nelly Mladenov qui est une très belle découverte que j'ai faite et que je vous propose ardemment. Voilà. Et je passe à un troisième livre qui est très très différent. Ça s'appelle Le cap sur la confiance. C'est donc de Maud Fontenoy, la grande Maud Fontenoy. Et c'est un guide en 10 étapes qu'elle propose aux éditions Larousse Jeunesse, mais illustré, superbement illustré. Maud Fontenoy est une navigatrice hors du commun. Elle a traversé les océans seule et affronté les pires tempêtes. Pour cela, elle a dû faire face à ses peurs et repousser ses limites. Avec ce guide, elle nous accueille à bord pour un voyage. Ensemble, elle nous propose une aventure dont la destination est la confiance en soi. Écoutez cette petite voix intérieure qui te murmure « Tu es capable de le faire, d'avoir des rêves » et d'aller au bout de ses rêves. C'est cette force tranquille qui te permet de te lancer malgré les doutes, de rebondir après un échec, de te sentir à ta place où que tu ailles. Ce n'est pas une armure infaillible, mais plutôt un gouvernail qui te guide même quand la mer est agitée. Et on peut lui faire confiance, entièrement confiance, à Maud Fontenoy pour ses conseils avisés et selon son expérience exceptionnelle. Oui, je vous rappelle qu'à 25 ans, c'était ma toute première expédition. Je suis devenue la première femme au monde à avoir traversé l'Atlantique Nord à la rame, oui, à la rame. Une rame organisé, bien sûr, avec une couverture, voilà, en solitaire et sans assistance. J'ai parcouru 7700 kilomètres en 4 mois à la seule force de mes bras et de ma confiance en moi. Ensuite, j'ai réalisé d'autres premières féminines en mer, oui, la mer, qui lui a beaucoup appris, même avec sa famille, ses parents, elle avait déjà côtoyé la mer, voilà. En mer, j'ai tout appris, dit-elle, l'engagement, la responsabilité, l'adaptation, la discipline, le travail d'équipe, la résistance physique, oui, la capacité d'initiative, parce qu'à un moment donné, il y a un retour de manivelle, il va falloir avoir une capacité d'initiative pour réparer. L'océan est un professeur très exigeant. La mer te met devant tes propres failles. Il faut avoir le courage, la créativité, la persévérance, l'empathie, l'organisation, la curiosité. Toutes ces qualités, tu les as déjà en toi comme des trésors enfouis. Enfouis. Donc, ne te laisse pas submerger par tes émotions. Et sois toi-même. Toutes les autres personnalités sont déjà prises, disait Oscar Wilde. Donc voici un merveilleux guide pour booster ton énergie et trouver ta voix. Bellement, guide avec un guide à tenir comme un journal. Il y a même d'ailleurs à la fin un journal que vous pouvez commencer à pratiquer, bellement illustré avec un chat sympathique de Maud Fontenoy. Alors, j'ajoute que personne ne croyait en son projet de traverser l'Atlantique à la rame, sauf elle. Voilà. À 30 ans, elle crée sa fondation consacrée à l'éducation de la jeunesse. À 31 ans, elle devient porte-parole de l'UNESCO pour les océans. À 41 ans, nommée ambassadrice auprès du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse pour l'éducation de la mère, voilà. Aujourd'hui, elle a 48 ans, elle est maman de 5 enfants et elle a encore des rêves qu'elle voudrait bien réaliser. Voilà pour ce troisième livre que je voulais vous présenter. Et là, j'ai un petit livre qui vient d'être traduit en français, traduit de l'allemand, du suisse-allemand, parce que cet auteur est suisse-allemand, par Julien Lapert de Cabane. Ça s'appelle « Réponse du silence ». C'est de Max Frisch et ça vient de paraître chez Gallimard. Avec une judicieuse préface de Herri de Lucca. Voilà, le grand Herri de Lucca s'est passionné pour cette histoire. Une histoire de montagne édifiante, car le protagoniste de cette aventure est un écrivain suisse qui, dans ce récit, explore les pensées d'un trentenaire désabusé qui a vraiment tenté d'extraire de lui-même le prodige, je le dis, le prodige, l'artiste qu'il sent en lui, sans trouver l'expression qui lui permettrait de se manifester et de se sortir d'une vie ordinaire convenue. Oui, quelque part en Suisse, dans une auberge de montagne, arrive un homme habité par une obsession. Gravir la crête nord, fascinant sommet, dont l'ascension est redoutablement périlleuse en cette saison, l'hiver. Mais l'homme est déterminé à s'élancer coûte que coûte vers une aventure totale qui promet de le tirer des tièdes compromis de l'âge adulte. Et comment se résoudre, en effet, à vivre en sourdine la même existence de tant d'autres, alors qu'il faudrait accomplir quelque chose de grandiose et d'entier, une fois pour toutes, quitte à en mourir. Voilà. Alors il s'entraîne à grimper en partant d'un refuge fréquenté par des randonneurs. Il est le seul alpiniste parmi eux. Et il reste à l'écart, ruminant son projet. Il s'est fixé à lui-même un rendez-vous avec la révélation, qui doit passer par un engagement inexorable. Au refuge, il rencontre une femme qui s'appelle Irène et qui décide, contre toute attente, de l'accompagner sur une partie du chemin menant à la paroi. Avec tout l'équipement nécessaire, il faut une tente, de la nourriture. Voilà. Datant de 1937, réponse du silence dévoile un drame existentiel à ciel ouvert où le vertige du danger côtoie l'éblouissement devant la beauté de la nature et cette qualité presque solaire du silence en haute montagne, car ça s'est très bien perçu, cette qualité du silence, d'où le titre de ce roman, Réponse du silence. Voici un bijou littéraire de Max Frisch, Réponse du silence, qui vient de paraître chez Gallimard, traduit en français. On ne dit pas la fin, voilà, vous le découvrirez dans cette nouvelle, sauf comme le fait errer de Lucas, ce que nous pouvons réellement accomplir, c'est assez. Voilà, je délire. On passe à de la musique de jazz, parce que j'adore aussi, si je ne l'ai jamais dit, Diana Krall. Elle chante là, Jingle Bells, et elle joue elle-même du piano solo.
Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Now the ground is white, go it while you're young. I take the girls tonight and sing this sleigh song. Just let a bobtail bay 240 as his speed, and then hitch him to an open sleigh and crack, you'll take the lead. A shooba dooba do 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 do, shooba do bobba do do, shooba do do. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells,
jingle bells, I jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.
Voilà, hein, n'est-ce pas que c'était beau et enlevé cette musique. Alors j'ai choisi cette musique anglaise ou américaine, ou, voilà, parce que je parle d'un cinquième livre qui me tient particulièrement à cœur. Ça s'appelle Ghost Story, c'est de Siri Hustwedt. Ça vient d'être édité par Gallimard dans une superbe édition hors fiction, avec photos en couverture, mais photos à l'intérieur aussi. Un témoignage qui me tient à cœur, car j'ai eu la chance de rencontrer Paul Auster, son mari, le mari de Siri, à Lyon, et puis d'écouter leur fille, la fille Sophie, lire un poème de Guillaume Apollinaire. Je n'ai pas réussi à retrouver cet enregistrement. Ici, dans ce texte Ghost Story, d'une finesse et d'une intimité rare, Siri Hustvedt, qui est d'origine norvégienne, se livre pour la première fois sur le grand amour de sa vie, qui s'appelle Paul Auster. L'occasion pour elle de revenir en profondeur sur leur longue et magnifique vie à deux, depuis leur rencontre à New York en 1982, jusqu'à la mort récente de Auster en 1924. Le combat contre la maladie habite également le livre, avec l'inclusion de tous les emails envoyés par Hustvedt depuis Cancerland à leurs proches. Le lecteur suit avec émotion l'évolution du cancer, les espoirs et les rechutes jusqu'au dernier message annonçant la mort. Mais le livre se concentre alors sur le deuil ressenti quand l'être aimé, celui de tous les instants du quotidien, n'est plus. Hustvedt, particulièrement cartésienne, s'étonne de ressentir parfois la présence de son mari et offre de très belles pistes de réflexion sur l'au-delà par les défunts. Sur l'au-delà pour les défunts. D'ailleurs, il avait dit à Siri qu'il voulait revenir en fantôme, et elle honore son souhait dans ce récit intime. Kirsus. Enfin, ce livre célèbre aussi la magnifique relation de sa fille, de leur fille, Sophie, et le gendre Spencer, et puis le tout petit-fils Miles, né en 2023 et à qui Paul Auster dédiait son prochain projet, un texte épistolaire dont les premières pages sont incluses ici dans ce livre. Ce livre « Ghost Story » est un texte unique qui emporte, par la beauté de sa plume, l'originalité de sa construction, la générosité de son autrice, l'émotion palpable à chaque page et l'immense grâce de Siri Huswet. Voilà. C'est traduit par Frédéric Joly. Il faut le lire, ce livre, Ghost Story, à lire et à garder précieusement. Voici pour conclure un dernier souvenir qui est dit dans ce livre. En 1981, Paul et moi, après notre rencontre, nous sommes allés voir un film dans une petite Azalea à Brooklyn, Un arbre pousse. Et elle avait été saisie par son émotion à Paul et des larmes que Paul avait versées. Alors, des années plus tard, elle lui a dit « Tu pleures dans la fiction ?»« Voilà, je pleure dans la vie », a-t-il répondu. Et je termine là-dessus. Pour ce livre, Siri Huswet, Ghost Story, qui vient de paraître chez Gallimard, série superbe hors collection. À lire absolument. Alors, pour le sixième livre, je parle des amours de Georges, les amours en majuscule, les amours de Georges, pour les 150 ans, parce qu'il s'agit de Stéphane Guégan, avec une grande délicatesse et minutieux, Stéphane Guégan retrace la vie sublime de Aurore, fille de Maurice Dupin de Franqueuil et de Sophie de Laborde. Sa grand-mère s'appelle Marie-Aurore Dupin de Franqueuil, qui est la fille naturelle du maréchal de Saxe, l'épée de Louis XV, le vainqueur de Fontenoy. Elle aura une grande influence sur Aurore, dont la vie commence à 16 ans et qui deviendra la grande George Sand. Au fond, écrit-elle, un amour réussi, c'est comme un roman réussi. C'est rare. À force de peindre la passion amoureuse, je la connaîtrai peut-être un jour. Tout ce que j'écris l'appelle. Alors Georges Sand, que nous connaissons, mais que nous retrouvons ici dans ce témoignage avec un grand plaisir. Raison pour laquelle, chères lectrices et chers lecteurs, je vous le propose, Les amours de Georges Sand par Stéphane Guégan, afin donc de célébrer les 150 ans de sa mort. Il y a d'ailleurs d'autres biographies. La Dame de Nohant, voilà, c'était sa grand-mère, mais maintenant c'est devenu la Dame de Nohant. Et elle reste la Dame dans notre esprit, la Dame de Nohant. Alors, deux grandes affaires de son existence, c'était à Georges Sand, c'était aimer et écrire. Sait-on au juste? Voilà, parce que les documents butent sur bien des silences et des censures. On découvrira ici une femme de désir qui brûle à la hauteur de ses sentiments et de ses héroïnes inoubliables. Il y a aussi des hommes comme Sandeau, Mérimée, Musset, Balzac, Chopin et Delacroix, autant que Marie Dorval, voilà un grand amour, Marie Dorval qui était actrice à cette époque, et quelques autres amazones rentrent en scène et redonnent chair dans ce livre au romantisme à cet âge d'or de la vraie vie. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire à propos des amours de Georges de Stéphane Guigon. Pour célébrer Georges Sand avec vous. Et puis, j'aborde un livre de terroir, un livre de chez nous. À mon tour, Les Invisibles de Thierry Moiroux. C'est vrai que on en parle pas mal dans la presse, dans la radio, tout ça. Les éditions Tix, aux éditions Tix. Thierry Moiroux, l'auteur, journaliste de presse quotidienne régionale durant 18 ans, notamment au Progrès de l'Ain, puis photographe professionnel, auteur de nombreux livres de photographie sur le département de l'Ain, élu local en 2008 dans l'équipe du maire Jean-François Debat. En avril de la même année, il avait été nommé vice-président de l'agglomération, en charge du tourisme, du sport, de la communication, des équipements de loisirs. Le président de la collectivité territoriale, Michel Fontaine, que nous saluons, lui avait confié le suivi du centre nautique Carédo et l'aménagement pédagogique et de loisirs de la forêt de Seillon, en collaboration avec l'ONF. Cette belle forêt, qui est très très bien présentée dans ce roman, cette belle forêt bressane qui connaît très bien, ainsi que la faune, la flore pour les amateurs de chasse aux périodes concernées et aux nécessaires coupes de bois. Il a été à l'initiative d'une jonction entre les massifs de Seillon et de l'Arena. Voilà pourquoi, par ce récit, il a voulu exprimer la marque du temps sur ce drame terrible et la mort de Pascal Cadoze, survenu dans cet espace naturel si beau. Un meurtre aussi brutal qu'inexplicable, au cœur de la forêt. Un jogueur, fonctionnaire à la DDE, voit son destin basculer en un instant en 1910. Le tueur, armé d'un fusil à pompe, disparaît sans laisser de traces. Auteur du massif forestier de Seillon, près de Bourg-en-Bresse dans l'Ain, donc s'ouvre alors une longue enquête que reprend ici Thierry Moiroux, inspiré de faits réels. Malgré 15 années d'investigation, menée avec acharnement par la police judiciaire de Lyon, le mystère demeure entier. Et cet ouvrage retrace la vie d'une victime discrète et solitaire, et explore les nombreuses pistes envisagées comme accident de chasse, exécution ciblée, acte prémédité, sexe ou geste de folie, mais rien ne ressort. L'auteur nous parle aussi donc du quartier, de son quartier, Les Veines, qui n'était pas très loin de cette forêt, de Seillon dans l'histoire, et rend hommage à cette forêt ancestrale, au chêne majestueux, paraît-il, que certains ont servi pour reconstruire Notre-Dame de Paris, et fait émerger un enchevêtrement troublant de faits divers sur plus de 30 ans à l'échelle de toute une région, avec, pour terminer, à la fin de ce livre, de superbes dessins à regarder attentivement. Et puis je vous parle aussi d'un grand livre historique qui change par rapport à ceux que vous ai présentés, L'Église au village. Au XVIIe et XVIIIe siècle, de Jean-Marie Le Gall qui vient de paraître au Cerf. Et je remercie Gilles Paris pour sa diffusion. 300 pages quand même, ou 27 euros, mais Jean-Marie Le Gall, qui est un historien moderniste, professeur d'université tout d'abord à Rennes, puis à Paris, Panthéon et Sorbonne, auteur de nombreux ouvrages reconnus dans le monde. Alors, des cloches qui rythment le travail des champs, aux processions qui conjurent la peur des mauvaises récoltes, l'Église n'est pas seulement une institution, elle est le cœur battant de la vie villageoise dans la France d'Ancien Régime. C'est une histoire de tradition et de renouveau, de foi et de terre, que Jean-Marie Le Gall explore ici à hauteur d'homme, nous invitant à le suivre dans un voyage immersif au cœur des campagnes d'autrefois. Avec cette étude magistrale, donc de 300 pages, comme je vous l'ai dit, au village, aux côtés du curé, qui est un voisin et un arbitre, autant qu'un guide des âmes, il y a des vicaires, des chapelains, des prêtres filleuls, des laïcs. Tous animent la vie de la paroisse. La vie religieuse se confond souvent avec la vie communautaire. Et le clergé, il y a la dîme, puissance économique et politique, se trouve confrontée aux tensions confessionnelles suivant les guerres de religion. Oui, il y a eu en France des guerres de religion entre catholiques et protestants, et juifs même, qu'on a eu tendance à isoler. Spécialiste de la Renaissance et de l'histoire religieuse, Jean-Marie Le Gall fait résonner la petite histoire qui fait la grande, redonnant vie aux gestes oubliés, aux superstitions tenaces et à cette solidarité des gens du peuple. Pardon. Cimenté par les sacrements. Il nous livre dans cette histoire, au plus près des archives, qui sont d'ailleurs nommées à la fin du livre, le récit sensible d'une France rurale, en lente et profonde mutation, dévoilant la fresque magistrale d'un pays où la paroisse villageoise est la principale scène de l'existence. Voilà pourquoi c'est un grand livre. Et je termine par un neuvième livre, oui, que je viens de recevoir. Cueillette au pluriel et culture, c'est de Marie Prat. C'est édité par le Lys Bleu qui se trouve à Paris, un éditeur parisien. Maria Prat, ancienne professeure de français et membre actif de l'association La Paix Maintenant et du collectif des sans-papiers, est auteure de plusieurs ouvrages, dont « Cueillette et culture » est le neuvième livre. Elle utilise l'écriture comme un outil essentiel de transmission et de partage des valeurs humaines. Ce livre, donc, « Cueillette nombreuse et culture » invite à une exploration libre et vivante des chroniques d'une blogueuse, réunie dans une anthologie sans classement. Aussi, pour moi, c'est une sorte d'autobiographie. afin que le lecteur puisse se laisser guider par ces mots à elle. Cet ouvrage mélangeant rencontres avec des anonymes sublimes, elle fréquente les salons parisiens, avec des célébrités comme Amélie Nothomb, qui est pour elle une grande passion, Amélie Nothomb, que nous partageons, Alexandre Romanès, Elsa Chua du Sapin, que nous découvrons, Ernest Pignon-Ernest, Michel Onfray, des témoignages, artistes à découvrir, réflexions personnelles, voilà, parce que pour certains, elle critique un petit peu, dévoile la richesse de son regard sur le monde, de ses réflexions sur les grands enjeux sociaux à ses récits plus intimes. Chaque texte est une cueillette d'idées et d'émotions portée par une voix sincère et engagée. À travers ce parcours, l'auteur qui est à découvrir témoigne de son époque avec passion et franchise, offrant ainsi un précieux miroir de son temps. Elle adore la poésie japonaise, donc elle cite des poètes japonais, celle de, par exemple, de Yosano Akiko. Yosano, je ne sais pas si vous la connaissez, ben vous la découvrirez. Et elle révèle ici un court poème avec deux versions différentes pour montrer combien elle a activé sa pensée. Le printemps, voilà le poème, le printemps est si court, à quoi bon parler de la vie ? Murmurai-je en lui tendant mes seins. Voilà. Dans la deuxième version, qui est un peu différente, mais pas mal non plus, court est le printemps, qu'y a-t-il dans la vie qui soit immortel, avec un point d'interrogation, et j'autorisai sa main sur la rondeur de mes seins. Vous voyez, il y a plus de sensualité et d'audace dans cette deuxième version. Et puis, il y a aussi une poésie de Rachel, poétesse israélienne, éditée par Arfuyen, que nous connaissons. Voilà ce que dit ce poème. Jamais, ça se situe au lac de Tibériade, jamais dans les longs jours brûlants de la moisson, en haut d'un char rempli de gerbes, ma voix ne s'était mise à chanter. Jamais je ne m'étais purifié dans le paisible azur et dans la clarté de Tibériade. Ô Tibériade, mon Tibériade, as-tu existé ou n'ai-je fait qu'un rêve ? Voilà. C'est sublime et j'arrête là pour cette émission. Merci de m'avoir écouté pour tous ces livres. J'ajoute que sur le Lys Bleu qui se trouve à Paris, qui est un éditeur qui se trouve à Paris, je ne sais pas si vous le trouvez là, je peux vous donner son adresse, le Lys Bleu, édition 40 rue du Louvre, 75-001 Paris, et que sur la couverture de Marie-Pia Cueillette et Culture, eh bien on voit son visage magnifique en train de dédicacer ses romans, parce que dans les salons parisiens, elle aimait dédicacer ses livres. Voilà, je termine là-dessus. Merci de m'avoir écouté et de lire plusieurs de ces livres. Je vous souhaite de bonnes vacances.